Vous êtes sur RTL. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi.
Virginie Efira, Sandrine Kiberlin et Cadmerad ont fait l'événement ce week-end au Festival du film francophone d'Angoulême. Nous retrouvons dans un instant et en direct notre envoyé spécial Stéphane Moussoc. À l'occasion de la sortie du nouvel album de Gregory Porter, Steven Bellery a rencontré la star du jazz. Nous jetterons un coup d'œil sur nos programmes télévisés avec Isabelle Morini-Bosque et Monique Younes nous présentera la bande dessinée RTL de la rentrée.
RTL Matin. Laissez-vous tenter.
Nous vous emmenons donc directement ce matin sur les rives de la Charente, retrouver Stéphane Moussoc. Bonjour Stéphane.
Bonjour Yves, bonjour tout le monde.
Vous suivez pour nous l'édition 2020, l'équipe vous salue. Du Festival du film francophone d'Angoulême en partenariat avec RTL. Vous nous présentiez Stéphane ce rendez-vous vendredi en nous faisant la liste alléchante des artistes attendus durant le week-end. L'affiche a-t-elle tenu ses promesses?
Oh que oui, je vais vous raconter tout ça, mais d'abord une émotion que les milliers de spectateurs angoumoisins, les journalistes et les équipes des films présents ici ont ressentie. Celle toute simple de se retrouver ensemble dans une salle pour célébrer, partager le cinéma entre ceux qui le font et ceux qui le voit. Celle qui traduit cela en mots pour nous ce matin, c'est Sandrine Kiberlin, venue présenter Angoulême le film Les Deux Alfred, de et avec Bruno Podalydès, mais aussi son frère Denis. Figurez-vous que jusqu'à la projection de samedi soir, Sandrine n'était pas retournée en salle depuis le début du confinement.
Eh ben là, je suis super émue d'aller au cinéma. J'ai eu beaucoup de chance. Après le confinement, on a été interrompu sur le tournage de Pascal Elbé, on a repris tout de suite après. Et après, moi, j'ai commencé mon film à moi et je pensais que jamais je pourrais le faire. Pour l'instant, je suis fataliste. Je refuse de croire qu'on ne va pas pouvoir continuer à faire des films et jouer dans des films et que les films sortent et que les films soient vus par les gens. Là, moi, je chope les bonnes nouvelles tout le temps, en fait. Quand je vois que Effacer l'historique marche, je peux faire une fête. Hein. Il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on fasse tout pour vivre avec ce truc, quoi. Qu'on puisse vivre quand même, profiter de ce qui peut justement nous évader de tout ce truc un peu pesant qu'on traverse tous. Le cinéma, c'est quand même justement la possibilité de ne pas voyager en risquant sa vie, mais de voyager pendant 2 heures dans un film avec des gens dont on voit le visage.
Sandrine Kiberlin dans Les Deux Alfred, farce remarque-blanc, écrite qui raconte comment dans un monde à peine futuriste, hein, on est dans quelques années, dominé par la technologie et les anglicismes, vous savez, ceux qui ont déjà envahi nos vies, un chômeur va accepter un travail auquel il ne comprend absolument rien, en mentant sur sa vie de famille, parce qu'avoir des enfants, ça peut freiner une carrière. Et il va croiser la route d'une working girl, comme on dit, ambitieuse, qui elle aussi n'est pas tout à fait franche du collier. On flirte avec la poésie et le burlesque, c'est vraiment réjouissant. Les Deux Alfred sort le 13 janvier prochain.
Alors, sortie beaucoup plus proche, Stéphane, celle du film Police d'Anne Fontaine, à découvrir dans nos salles dès ce mercredi, avec notamment Virginie Efira, qui elle aussi est passée par Angoulême.
Police, c'est un film remarquable qui suit une journée dans la vie de 3 policiers chargés d'assurer l'expulsion d'un réfugié politique dont le droit d'asile a été refusé. En chemin, la conscience de chacun va prendre le dessus sur le strict respect de la loi. Anne Fontaine, et c'est là où c'est intéressant, filme le point de vue des 4 personnages séparément avant de les réunir dans la dernière partie. C'est un puzzle humain haletant, passionnant. On y retrouve Omar Sy, Grégory Gadebois ou encore donc Virginie Efira dans l'uniforme d'une femme qui doute alors qu'elle représente l'ordre.
Souvent quand on voit des fictions avec la police, on les voit souvent pratiquement tout le temps dans l'exercice de leur fonction et puis revenant après chez eux, dans leur famille, avec leur femme délaissée ou on voit là. Mais bon. Et là, c'est comme si le film il allait un petit peu dans l'autre sens, quoi. C'est-à-dire qu'on démarre sur tout l'intime, en fait, sur tout ce qu'ils vivent en dehors, ce que mon personnage vit en dehors, son rapport à son mari, ce qu'elle lui cache, ses propres nébuleuses et tout ça, avant de mettre l'uniforme et de devoir être au service de quelque chose. Et ce qui est aussi une promesse de jeu intéressant, c'est quand les personnages ne disent pas ce qu'ils pensent, ou en tout cas ce qu'ils verbalisent n'a pas grand-chose à voir avec ce qui est dans leur pensée.
C'est encore un rôle marquant pour Virginie Efira, venue aussi à Angoulême présenter un autre film, je vais vous en reparler, Adieu les cons, de et avec Albert Dupontel.
Bien sûr, oui.
L'actrice connaît bien ce festival, rappelons-nous qu'elle en fut coprésidente aux côtés de Gilles Jacob en 2016, elle est consciente de l'enjeu de ce rendez-vous charentais cette année pour le milieu du cinéma.
Il y a quand même un état où tout le monde a été très figé là ces derniers temps, avec une idée complètement floue de l'avenir, des possibilités. Donc puisqu'il faut faire avec et qu'il faut que les choses continuent et que je ne pense pas du tout qu'il y ait la mort du cinéma, qu'il y en a traversé d'autres, mais que là, c'est une habitude qui s'est perdue et les habitudes, elles sont parfois longues à reprendre. Je trouve que sortir de ce grand immobilisme, en respectant évidemment toutes les mesures et tout ça, mais en étant quand même dans un mouvement espérant et joyeux, oui, c'est important. Ouais.
Virginie Efira, donc, qu'on retrouve à l'affiche de Police dès ce mercredi.
Si je me souviens bien, vous nous aviez aussi parlé de la venue de Kad Merad à Angoulême, dites-moi.
Oui, et ce matin, Kad est en prison à l'heure qu'il est. Il présente à la maison d'arrêt d'Angoulême le film Un triomphe dans lequel il joue.
C'est malin, vous avez foutu la trouille pendant 10 secondes. Là,
j'imagine. Merad est en prison. Il joue donc dans ce film le rôle d'un comédien qui n'arrive pas à trouver du travail et qui accepte d'aller enseigner le théâtre à des détenus. Film tiré d'une histoire vraie, la troupe de prisonniers va apprendre à jouer en attendant Beckett de Godot et connaître. Godot de Beckett, d'ailleurs.
Oui, c'est dans l'autre sens.
Et connaître un succès retentissant autour. Film vraiment à hauteur d'homme, simple, délicat, sans pathos, qui parle de transmission et d'évasion, en tout cas grâce à la culture. Kad Merad a retrouvé l'univers carcéral qu'il avait déjà côtoyé devant une caméra.
Moi, j'ai déjà tourné pour Baron Noir dans une prison à Lille. Et déjà, j'avais eu déjà la même impression, la même émotion, le même trac. Chaque fois que tu rentres dans une prison, il y a un truc, c'est vraiment c'est particulier. Hein. Là, on a tourné à la prison de Meaux. On s'est installé pendant une semaine. Donc il y avait les loges à l'extérieur, puis on rentrait, cette succession de portes qui se ferment derrière toi, qui s'ouvrent, qui se ferment, des bruits, des sons. Tu traverses des couloirs extérieurs avec des gens qui te crient dessus, parce que c'est très particulier quand même. Et nous on sortait le soir, on rentrait. On sortait sur le parking de la prison de Meaux. C'est quand même un endroit qui est le plus laid du monde et on était pourtant très heureux à ce moment-là de retrouver ce goût de la liberté, parce que la privation de liberté, c'est la chose la pire pour un être humain.
Un triomphe avec Kad Merad a été un petit peu repoussé. Le film sortira maintenant début janvier prochain.
Qu'est-ce qu'on fait? On l'attend. Qui ça? Godot? De mémoire, hein, je crois que ça débarque.
C'est exactement ça. Exactement.
Stéphane, parmi tous les films que vous avez découverts pour nous depuis vendredi, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus marqué que d'autres? Un coup de cœur particulier?
Oui, franchement, il y en a plusieurs. Cinquième set que vous verrez en décembre, dans lequel Alex Lutz incarne un joueur de tennis vieillissant qui ne peut se résoudre à quitter les cours et veut vivre absolument un dernier Roland-Garros. Le thème du chant du cygne, formidablement filmé et campé, même si on n'est pas fan de tennis. Et puis alors, le film qui a emballé le festival samedi soir, je vous en parlais tout à l'heure, Adieu les cons, de et avec Albert Dupontel et donc Virginie Efira. Comment une coiffeuse condamnée par la médecine, qui veut absolument vivre jusqu'au bout, va s'allier à un fonctionnaire obsédé par l'informatique qui, lui, refuse de continuer à vivre. C'est burlesque, mais c'est surtout très émouvant, un peu comme si Chaplin rencontrait les Monty Python. Tout le cinéma de Dupontel est là, ses thèmes, ses obsessions, son rejet, fascination pour notre époque, que je lui ai demandé de nous résumer.
Je me sens professionnellement toléré et biologiquement en sursis, voilà. Donc l'époque, je l'ai subie, avec ses déviances et tout. En même temps, j'ai la chance que moi, je vis dans une niche très protégée depuis que je suis né, donc j'ai beaucoup de chance. Est-ce que c'est pour autant que je ne dois pas la commenter? Non. Et puis, plus les gens vont voir les films, plus quelque part, ils m'encouragent à parler. C'est comme ça que je vis la chose. Mais l'époque dont je parle, c'est l'époque que tout le monde connaît. Si tant est qu'il y a un message dans ce film, j'aime pas le mot, mais c'est la difficulté de s'aimer dans un monde anxiogène et répressif. Mais c'est fondamental, voilà. Aimer ses proches, aimer toutes les belles choses de l'existence. Le monde actuel fait ressortir beaucoup de laideur dans son modernisme et tout. Alors qu'il y a des choses absolument sublimes. Et l'art, quand c'est bien fait, je parle pas de moi, bien sûr, mais l'art, quand c'est bien fait, Marc, il y a des Mozart, il y a des Simenon, il y a des Vinci, pour témoigner du génie humain.
Oui, Albert Dupontel qui avait gardé son masque, hein, absolument, pour l'interview. Adieu les cons sort le 21 octobre. Albert Dupontel et Virginie Efira viendront nous en parler dans Laissez-vous tenter.
Ah, j'allais vous dire, faudra absolument nous les amener.
Ah oui, vraiment. Vous allez adorer le film.
J'en doute pas. Alors, après ce riche week-end, Stéphane, quel est le programme du jour à Angoulême?
Ah bah ça continue, deux moments très attendus aujourd'hui. Isabelle Adjani vient présenter Sœur de Yamina Benguigui et puis la venue de Patrick Bruel pour le film Villa Caprice, dans lequel il joue le rôle d'un homme d'affaires inquiété par la justice qui choisit Nils Arestrup comme avocat, lequel est lui aussi un homme de pouvoir, affrontement qui promet beaucoup, duo très alléchant. Notez que Patrick Bruel sera en direct demain matin avec nous ici depuis Angoulême à 9h.
Merci pour toutes ces infos. Oserais-je vous demander le temps qu'il fait à Angoulême? pour ce festival.
Alors ce matin, c'est couvert, mais si j'ai compris Monsieur Baudin et Marina Giraudeau, ça devrait s'améliorer. Il y a eu un week-end contrasté, si vous voulez. Mais bon, c'était un temps pour aller au Cinoche.
Voilà, Louis Baudin nous a dit que l'amélioration allait venir par l'Ouest. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur.
Comme toujours.
Voilà, bien entendu, comme parfois. Mais c'est ce qu'il y a de plus logique, vous avez raison. Merci beaucoup, on est heureux de passer ce moment avec vous, Stéphane Boutsock. Et dans un instant, on retrouve Grégory Porter, qui chante pour Steven Bellery, accessoirement vous, puisque vous nous écoutez.
RTL Matin, laissez-vous tenter jusqu'à 9h30.
9h10, musique à présent et le retour d'une grande voix. Grégory Porter vient de publier All Rise, c'est son 6e album. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous avez rencontré le chanteur.
Oui, qui prend son envol avec ses 16 nouvelles chansons. Après avoir rendu hommage à Nat King Cole il y a 3 ans, Grégory Porter livre ici son disque le plus accessible, mais non dénué de caractère et de grâce. Exemple avec Everything You Touch Is Gold.
Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and exciting. You don't have to dig too deep to find out your effect on me. Everyone that I know in my life is asking me, is she gonna be your wife? Oh, everything you touch is gold.
C'est un disque naïf dans le bon sens du terme, hein, où Grégory Porter chante beaucoup l'amour, la volonté de s'élever, de se remettre en question. Laissez-moi être celui qui est naïf, chante-t-il d'ailleurs dans un morceau. Le colosse d'un mètre 91 a beaucoup expérimenté en studio avec ses musiciens et s'évade du jazz pour aller butiner dans la soul, le blues et le gospel.
Je suis un artiste de jazz, mais je ne ressens pas la nécessité de m'enfermer dans un genre. Il y a beaucoup de gospel dans ce disque. Ça me permet de faire des allers-retours entre des choses très terrestres et d'autres plus divines. Je crois que je suis plus ouvert musicalement aujourd'hui, même dans la musique que j'écoute tout simplement. Toutefois, je continue de penser que pour émouvoir, la musique doit avoir des racines, quelque chose de vrai et organique, qui fait du bien. C'est la musique de ma jeunesse, le gospel, la soul des années 70, Marvin Gaye, Donny Hathaway, c'est toujours là.
Imagine a life filled with wild rides and tricky games. Popcorn smells on carousels, hot hearts roast, rollers coast all night long. Just imagine a life pretty dreams. Have a toast, if I may boast. We'll spin around without a scream.
Go Round, l'une des merveilles du nouvel album de Grégory Porter.
Derrière sa légèreté, c'est aussi un album très intime pour Grégory Porter.
Oui, où son enfance et son père trouvent un écho dans la plage 2 du disque Dad Gone Thing, qu'on peut traduire par quelque chose d'un père disparu. Il évoque cette figure qu'il a à peine connue, lui le 7e enfant d'une famille élevée par une mère, pasteur en Californie. J'ai demandé à Grégory Porter si dans sa voix de baryton époustouflante, il y avait encore un peu de son enfance.
Absolument, je chante avec une voix profonde et puissante, mais ma vulnérabilité vient de mon enfance. J'ai cette vision biblique de l'enfance. Les moins que rien sont les enfants dans la Bible, car ils sont vulnérables en tout point.
Oh, my baby left me, and I don't know what to do. It's myself still trying to find.
Quand je chante, je recherche mon père d'une certaine manière. Il est mort, j'étais gamin. J'ai appris qui il était à son enterrement. Dans mes souvenirs, je crois qu'il ne m'a pas laissé grand-chose, mais il m'a donné une voix, ma voix chantée. Je ne l'ai jamais entendu chanter, mais à ses funérailles, tout le monde me disait à quel point il chantait bien. Donc je lui dois ça. La musique est en moi, constamment. Alors, d'une certaine manière, il est avec moi.
Church bells ring, front row right pew, so that he could be seen. He betrayed his only son for the life that he could get. So the son went to the father's church, stepped into the pulpit, leaned his head back and opened his mouth. The church jumped up like spring. You didn't teach me a daggone. Oh, 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 but how to sing. Oh, 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 oh. And I'm gonna sing my song.
C'est un bijou, le nouvel album de Gregory Porter s'appelle All Rise, il vient tout juste de paraître, il doit se produire le 24 novembre à la Scène Musicale près de Paris.
You leave me home.
Merci beaucoup, Stephen Bellery. On a laissé une petite réverbe. 9h17. Bonjour Isabelle Morini-Bosque.
Bonjour tout le monde.
On commence avec les audiences du week-end.
Oh oui, ça va être vite fait. Le record du week-end, c'est Koh-Lanta, hein, 5 700 000 téléspectateurs. Ensuite, il y a eu Taxi, plus de 5 millions hier soir sur la Une toujours. Le sport a très bien démarré, notamment le Tour de France sur France 2 et France 3. Et puis, hier soir, le match de nos femmes en short, là, nos féminines,
ouais.
plus d'un million. Sur W9, 1 100 000 très exactement, c'est très bien.
On va rappeler quand même que les Lyonnaises sont championnes d'Europe pour la septième fois. C'est une, voilà, une histoire absolument extraordinaire.
C'est bien.
Alors ce soir, on note sur M6 un inédit de Cauchemar en cuisine.
Oui, le jour aussi est inédit et c'est doublement chaud puisque ça se déroule à Antibes avec deux amis d'enfance sollicitant Philippe Etchebest pour leur éviter la faillite. Leur situation est critique, mais le programme toujours savoureux. Comme est intéressant sur TF1 le téléfilm Trop jeune pour moi avec Madame de Fougerolles, une histoire d'amour entre une quadra et un vingtenaire. Mention spéciale pour Ariel Dombal en mère libertine et libertaire, Dombal en balle.
L'événement est sur la 2 ce soir avec le démarrage de La Garçonne. C'est un feuilleton ayant pour vedette Laura Smet.
Absolument. 6 fois 52 minutes, La Garçonne est la cinquième adaptation d'un livre de Victor Marguerite qui fit scandale en 1921 parce qu'on y voyait une fille se déguiser en garçon, impensable, pour exercer un métier d'homme, flic, encore plus impensable. On le sait, ce sont les femmes qui ont fait marcher le pays durant la Grande Guerre, remplaçant les hommes dans les usines et dans les champs. Ces femmes à qui on a dit en 19 « Merci beaucoup et maintenant rentrez chez vous faire la cuisine ». Louise, ambulancière, est ainsi brutalement limogée. Or, elle doit entretenir son frère jumeau Antoine, un toxico traumatisé par la guerre et qui refuse désormais d'être flic comme leur père l'était. Et comme c'était prévu, Louise, en plus soupçonnée d'un meurtre, décide alors de le remplacer.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'était qui?
C'est moi, Antoine. Loulou.
Louise ?
Faut que je disparaisse, Antoine. Et le meilleur moyen, c'est de prendre ta place à la criminelle.
T'es dingue ?
Mais non ! Les lois, les procédures, je les ai assez potassées comme ça avec toi, pour ton concours. Je sais tirer, je sais conduire, je change pas devant un cadavre. En plus, à la criminelle, ils t'ont jamais vu.
Ça marchera jamais, ils vont s'apercevoir que t'es une femme.
Bon, pareil, même toi, tu m'as pas reconnue.
Tu réalises dans quoi tu
t'embarques, Louise-Antoine, c'est donc Laura Smet qui a dû cumuler trois rôles. Femme du monde dans le Paris Canaille des années 20, Louise, sœur d'Antoine, et Antoine, donc, avec perruque, mais sans autre artifice qu'un maquillage accentuant ses contours. Elle a dû creuser et son personnage et ses joues, épuisée après 10 heures de tournage par jour durant 4 mois, un rythme dingue qui, dit-elle, l'a laissée au bord de la schizophrénie, mais éprise de ce personnage luttant pour, je la cite encore, son père, son frère, la justice et la vérité. Je vous laisse méditer.
Oui, oui.
Ce polar historique est doublé d'une histoire d'amour pour un journaliste joué par Grégory Fitoussi. Il rentrait de Biarritz quand je l'ai rencontré après de longues vacances commencées en mars. Je lui ai évidemment d'abord demandé s'il connaissait Laura Smet avant. Et s'il avait été impressionné de tourner avec une comédienne dont la famille est un monument et qui occupe constamment les médias, qu'elle le veuille ou pas, généralement pas d'ailleurs.
Impressionné, c'est un grand mot. Je respecte énormément son travail. Non, je ne connaissais pas Laura, on s'était croisés comme ça. On s'est rencontrés chez elle pour faire une lecture très vite. C'est beaucoup apprécié et puis on a pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Il fallait qu'elle porte la série et qu'elle soit crédible. Elle joue quand même trois rôles différents.
Moi j'avais des craintes. Hein.
Et oui, on en avait tous, elle aussi, elle en avait d'ailleurs. Et elle a fait un travail formidable et moi j'étais très heureux que ce soit elle. J'avais depuis longtemps envie de travailler avec elle.
Et est-ce qu'elle a été impressionné par Grégory Fitoussi, parce que Grégory Fitoussi, c'est pas rien dans le milieu.
Absolument, c'est loin d'être rien. Non, je pense pas qu'elle ait été impressionnée. Je pense qu'elle était contente aussi de travailler avec moi. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. J'ai fait pas mal de films d'époque, moi. C'est quelque chose qui me plaît.
Ça a été fini de tourner en octobre, mais si je me souviens bien, il faisait très chaud.
Effectivement, je me souviens dans un café où on transpirait trop, donc il fallait couper la scène. On se faisait raccorder, on se faisait sécher, puis on reprenait la séquence en plein milieu. En plus, moi, j'avais une grosse gabardine en cuir énorme.
Très saillante au demeurant.
Absolument. Les gens étaient beaux à l'époque.
Donc, quelle belle voix. Quelle
est réalise en écoutant la radio. Ah oui, tout est bien. Irréprochable côté face, côté fesse, côté voix. Bon. Grégory Fitoussi ne fait pas le distinguo entre cinéma et télé, où on retient, entre autres, Les Hommes de l'Ombre, Le Bureau des Légendes saison 4, et bien sûr Engrenage. Beaucoup de séries cultes et peu de daubes.
Moi, j'en ai fait beaucoup, mais j'ai la chance qu'on me propose des projets assez chouettes. Mais bon, intelligent, je sais pas. Vous savez, quand on est acteur, on a beau brasser de l'air. Quand on vous propose rien, vous travaillez pas. Hein, donc je navigue. Mais j'essaye de me diversifier. Par exemple, quand je suis parti d'Engrenage, mon père m'a dit « Mais t'es complètement idiot, mon fils. Tu joues dans la meilleure série en France et tu t'en vas. »
C'est un peu ce que j'ai pensé, moi, à l'époque.
Mais beaucoup de gens ont pensé ça. J'avais pas envie de passer ma vie à jouer les mecs en costard-cravate bien rasé. On a vite fait de vous proposer systématiquement les mêmes choses. Donc, c'est un peu la qualité que je peux m'accorder de pas être trop pressé, mais c'est pas toujours évident. En ce moment, par exemple, ça va devenir un peu compliqué. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que parfois, en fonction des circonstances, on est plus ou moins obligé d'accepter des choses qu'on ne ferait pas dans d'autres circonstances. Après, se proposer pour certains rôles, c'est un peu...
Se vendre, vous voulez dire?
Oui, c'est délicat.
Voilà, il est absolument charmant à tout point de vue. Alors, il a des projets qui sont évidemment au point mort, en sommeil, on va dire, en sommeil longue durée, dit-il. Et il en a un notamment avec son frère, Michael Fitoussi, qui joue dans Alex Hugo, qu'on verra d'ailleurs mercredi sur France 2.
Merci beaucoup, Isabelle Morini-Bosque. Dans un instant, Monique Younes. Le grand retour, mais bien sûr, de Monique Younes. Je ne vous en dis pas plus. Enfin, c'est quand même question de bande dessinée. Hein.
Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi.
9h23, merci beaucoup d'écouter RTL. Chère Monique Younes, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous retrouver, car vous nous révélez ce matin la bande dessinée RTL de la rentrée, éditée par Casterman. Il s'agit d'un album de Léonie Bischoff qui retrace la vie d'une auteure américaine, Anaïs Nin, surtout connue d'ailleurs pour son journal.
Oui, un journal qui fit grand bruit. Elle avait commencé à l'écrire adolescente, vers l'âge de 11 ans, d'abord à l'attention de son père. Écoutez Anaïs Nin, disparue en 1977, le raconter.
Mon père était le plus jeune professeur de musique à la Scola. Alors déjà à 11 ans, j'avais vu au moins 11 pays parce qu'il voyageait pour ses concerts et nous suivions. Un été, quand j'avais 11 ans, mon père a dit qu'il partait en tournée, mais il voulait vraiment nous quitter définitivement. Et moi, je l'ai senti. Et c'est alors qu'a commencé le journal pour l'attirer, pour qu'il continue à s'intéresser à la famille.
Alors son père ne reviendra pas et le journal va devenir le confident d'Anaïs Nin, son ami, son amant, sa raison d'être. Elle le tiendra toute sa vie, se jurant de ne pas l'éditer, d'où cette liberté qui ne doit rien au style ou à l'imagination. C'était sa vie, ses mœurs qui étaient libres, libérées et même déchaînées de transgressions. Les premières pages de la bande dessinée montrent Anaïs Nin à Paris. On est au tout début des années 30. Oui. Elle est la jeune épouse timide du banquier Hugo Giller. Elle rougit quand son mari la présente comme une artiste, puisqu'elle a commencé à écrire notamment un essai sur D.H. Lawrence, l'auteur de L'amant de Lady Chatterley. Et en effet, elle a du mal à se considérer comme écrivain. C'est alors qu'un soir, son mari rentre à la maison avec un écrivain américain sans le sou qui vient de débarquer à Paris. Il s'appelle Henry Miller et il veut lire ce qu'Anaïs a écrit sur D.H. Lawrence.
Anaïs Nin va devenir la maîtresse d'Henry Miller, n'est-ce pas?
Elle va devenir la maîtresse d'Henry Miller, la maîtresse de la femme d'Henry Miller,
ah oui.
June, la maîtresse de son psychanalyste,
bien,
de son prof de danse,
oui,
de son éditeur.
Formidable.
Ouf, la liste des amants d'Anaïs Nin est très très longue, mais attention, elle les triait sur le volet du génie. Ses amours l'ont construite intellectuellement et révolutionnée sexuellement. C'est tout ce processus de désinhibition que raconte la bande dessinée de Léonie Bischoff. Mais on peut dire que sa grande histoire d'amour, c'est avec Henry Miller et sa femme June. Écoutez comment Anaïs Nin parlait de ce trouble, comme on dit aujourd'hui.
C'était la première fois que j'avais vu un couple en guerre. Et j'essayais d'harmoniser, mais ça n'a pas réussi. J'étais très, très impressionnée par June. Moi, qui étais tellement renfermée, enfermée, timide, il me semblait que c'était la femme idéale, qui était libre, qui avançait dans la vie avec beaucoup d'audace, qui était déjà en pleine maturité. Elle était très impressionnante, très dramatique, habillée d'une façon qu'on ne pouvait pas oublier. Et il m'a beaucoup impressionnée. Et alors j'ai compris un peu mieux le tourment de Henry, qui se disait obsédé de vérité, qui avait épousé quelqu'un qui était mythomane. Elle inventait la vie, elle inventait toutes les situations. Quand on est en dehors de la vie, il y a deux façons de la prendre. Non par amour, ou alors par revel, par la haine. Moi, j'essayais plutôt d'aimer.
Alors, dites-moi, Monique, vous allez me trouver un peu conventionnelle, mais enfin, comment réagissait le mari d'Anaïs Nin à ses infidélités ?
Mais vous savez, Hugo Giller était une personnalité très intéressante. C'était d'abord un banquier, mais il était aussi un amoureux des arts, de la poésie, autant intéressé par la psychanalyse que par l'astrologie. Et il était un soutien indéfectible pour sa femme. L'auteur de la bande dessinée Anaïs Nin, Léonie Bischoff, le campe très très bien.
C'était quelqu'un de très en avant sur son temps, en fait, de très amoureux aussi. En fait, Anaïs veut une liberté amoureuse, mais elle ne veut pas non plus briser cette illusion d'épouse parfaite qu'elle a construite. Elle aime ce couple qu'elle a avec Hugo, elle aime cette image d'être une épouse qui le soutient, qui lui donne de la tendresse. Et je pense qu'Hugo a eu l'intelligence de comprendre ça et de faire quelque part semblant de croire à ses mensonges, même si je pense qu'il n'était pas dupe. Mais en fait, on sent vraiment chez lui qu'il cherche à lui donner ce dont elle a besoin pour s'épanouir et en tant que femme et en tant qu'artiste.
Alors Anaïs Nin n'a pas eu d'enfant. Hein.
Mais non, elle s'est fait avorter malgré le désir de son mari de garder l'enfant. Et le récit de l'avortement fait partie des planches les plus fortes de la bande dessinée, avec celle qui raconte l'histoire d'Anaïs Nin avec son père. Parce qu'après l'avoir, pour ainsi dire, abandonné avec sa mère et ses frères, il va réapparaître dans la vie de sa fille en 1933. Anaïs Nin a 30 ans. Elle va le revoir. On apprendra qu'il a abusé d'elle quand elle était petite. Et devenue femme, elle deviendra sa maîtresse. Léonie Bischoff raconte sans phare cette transgression et rend hommage, un très très bel hommage, à la grande écrivaine que fut Anaïs Nin. L'ouvrage est édité par Casterman et c'est la bande dessinée RTL de la rentrée. Et il nous fait bien commencer l'année, cet album.
Merci beaucoup, Monique. Quelle histoire que la vie.
Mais vraiment, une superbe histoire. Si vous incroyable. Ne la connaissez pas, découvrez-la avec cette bande dessinée. C'est poignant.
Merci infiniment. Publié chez Casterman, RTL, bande dessinée RTL de cette rentrée. Dans un instant, vous allez retrouver Julien Courbet. A tout de suite.
Passez une bonne journée sur RTL.
RTL, toujours avec vous. Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old.
Un petit peu de Julien Courbet. Eh mais non, everything you touch is gold, vous savez.
Mais qui
je sais
chante.
Pas comment vous faites. C'est Grégory Porter, qui, à qui on a raconté l'histoire de votre vie professionnelle et qui a écrit cette chanson.
Voilà.
Écoutez.
Je